bande originale. Et non. Avec Leïla Kadobouzadi, Morgane Cadignan-Tom, Lila.
Bonjour.
Avec Silo
bonjour.
Tanguy Bastion.
Bonjour.
Daniel Morin.
Coucou
et
Morgane.
Notre invité Bastien Nives. Nous allons parler de Corto Maltese.
La guerre, on est en octobre, ça y est.
Qu'est-ce
c'est
que...
fini septembre.
Oui, c'est, ah ouais,
c'est fini septembre.
C'était long.
Ça va,
c'est fini.
C'était long cette rentrée.
Ça va mieux là.
J'ai mal à la tête.
Ouais, ça va mieux.
J'ai mal à la tête. C'est... Donc on est au mois de juin.
Oui. Bientôt.
Ou pas.
D'accord. Bientôt, bientôt. Okay.
Nous allons parler du nouveau Corto Maltese. Hugo Pratt, Martin Kénéen et Bastien Vives signent donc ce nouveau roman, j'ai envie
de dire.
Cet
album.
Ouais, ouais, c'est
noir.
Une belle histoire, totalement noire, avec justement Océan Noir. Mais quel blind test!
Tanguy!
Alexis,
Tanguy. Noir, c'est noir.
Johnny
Hallyday. Ouais. Ouais.
Noir, c'est
Tanguy, c'est Tanguy.
Quoi?
Ouais.
C'est noir.
Ouais,
c'est
vrai,
c'est
Tanguy.
Tanguy a dit.
Ah, merci, Tom. J'ai rien dit. Ah non. Non, pas de ça. Démerdez-vous.
Qui chante?
Non. Johnny. Ah.
Morgane.
Oui.
Barbara.
Bravo.
Vitesse.
La dépression.
Tu t'es dit que j'étais une vieille âme, Tanguy.
Oui.
Une vieille dame. Dans un corps de jeune.
Qu'est-ce qui t'arrive, Tanguy?
Je ne sais pas, pardon.
C'est vendredi, Tanguy. Est-ce que ça serait pas une montée de désir?
Attention, ça va être très, très, très facile.
Leïla Morgane.
Leïla.
La Villiers.
Ouais.
Mama.
Avec qui?
Avec Nicoletta. Ah, c'est Catherine Ringer, là.
Ouais, c'est Ringer.
C'est Catherine Ringer.
Ah ouais, c'est Catherine.
Oui. On a fait l'inverse.
Si vous m'avez dit Nicoletta, on avait pas pour les intranquilles de Joachim Lafosse.
C'est notre chanson de la semaine avec Leïla.
Ouais. Viens, on prend une voiture.
Allez, on l'écoute.
Je veux m'enfuir. Quand tu es dans mes bras, je veux m'enfuir.
Il y a un message subliminal, les gars.
Non, 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 ça sent le prof décalqué qui dit allez, faites un exercice.
Allez, allez, filme.
Allez, voilà, pas.
C'est l'animateur qui n'est pas animé. Écoute un peu de musique. Et donc.
Tanguy. Daniela.
Jolie.
Mais c'est qui, Alamo? Franck Alamo?
Mais non.
Non. Les chaussettes noires. Et tout est noir. Ouais, pardon. Bon, bah, pour Tom alors. Non, demi.
Non.
Demi. On parle de moi.
Ah, pardon. Il fait froid. Oh. Sinon, il y avait le maire Petit qui
était génial. Bien joué,
Tom. C'est ça.
Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi.
Pour l'instant, un point pour Leïla, un point pour Morgane, un point pour Tom, un point pour Daniel.
Tout à fait.
Non.
Et moi?
Quoi, non?
Un point pour Daniel?
Non, il l'a pas eu, c'est.
Non, c'est pour
c'est Tanguy, c'est Tanguy, c'est Tanguy. C'est Tanguy. Oh, ça va, calmez-vous, ça reste un vieux.
Mais jeu. Quel traîneur, ça. Il
y a plus de
titre. Non, plus rien du tout. Ouais. Vivement novembre, hein.
Ouais.
2020. Le 7-5 reprend ce qui lui est dû de droit.
C'est les rues sombres de Belize, la misère, les terrains.
Leïla Morgane d'Amso.
Peut-être que comme tout
le monde est de
la vie dans ma putain de pouvoir. Quand on arrive, si nous convoquons.
Vas-y, Leïla, regarde sur la feuille.
Non, je vois pas, je suis
bien. Oui, mais bon.
J'adorerais, mais je vois pas.
Écoutez, il y a peut-être un
ça.
C'est
Vald, ah,
non?
Non,
Nino?
Qui?
Nino?
Non, enfin, moi, je, moi-même, je ne reconnais pas ce que j'ai.
Ah. C'est qui?
Ah merde.
Attends, je vais chazamer, quoi.
Attends, attends.
C'est Caballero et Jordan.
Ils sont deux, en fait.
Ah, c'est les frères, là. PK et.
Dadju? Dadju? Non.
Bicolos?
Dadju et Gims?
Et la section d'assaut?
T'es Gims? Gims et Leto. Bien joué.
Et... Ouais. Ah là oui.
Ouais, mais c'est des
et c'était qui l'autre?
Leto.
Ah.
Avec Gims. Ok, ok, d'accord. Okay. Personne ne marque. Enfin, si, toi. Toi.
Tanguy.
Oui,
Tanguy. Indochine. Oui, tes yeux noirs.
Oh. J'ai même pas entendu la musique.
Bah ouais, Tidi.
On aura dit une sonnerie portable.
Écoute bien.
Viens là.
Ah, j'adore.
Viens là. Et Tanguy, dis-moi.
Et les paroles sont super et tu mets tes vêtements en et tu les mets sur toi. Ah ah ah.
Attention, à 3 points, c'est la victoire qui peut se signer avec ce titre.
Tanguy, les verruriers noirs.
Oh Tanguy,
salut à toi.
Salut à toi le Pakistanais, salut à toi le Philippin, salut à toi le Jamaïcain,
salut à toi
le Guyanais, salut à toi le Togolais, salut à toi.
Monsieur.
Bravo Tanguy. Merci.
Merci.
Le rock indépendant.
Maltese. Merci d'accueillir Bastien.
France Inter.
Merci, merci.
La bande originale avec Nagui.
Bienvenue, bah, oui, oui, mais installez-vous.
Non, ça marche pas.
Il faut régler,
c'est pas grave.
Vous pouvez mettre le casque et après monter le volume.
Très bien. Donc,
on est une radio professionnelle.
Je vois ça.
Ce Corto Maltese est une revisite. Racontez-nous comment est né cet OSC en noir.
De Martin Kenen. Et non, c'est juste parce qu'avec avec Martin, on se posait la question de savoir si un personnage comme Corto Maltese pourrait encore vivre aujourd'hui, à notre époque. Et moi, je pensais que non, lui, il pensait que oui. Et donc, il a écrit une histoire et moi, j'ai fait les dessins.
Il voilà. y a un vrai débat sur se permettre de revenir après Hugo Pratt, après Uderzo Goscinny, après Maurice, enfin, ou Hergé. Hergé, c'est pas possible. Hergé, personne n'a le droit. Ouais.
Pour le moment.
Oui, non,
mais ça a vite tombé dans le domaine public et tout. Ouais. Non, pour le coup.
Et le mec qui fait un RG,
Je suis dessus. Alors ça va être approximatif, hein, mais tu vas voir.
Non, parce que j'ai l'impression que les tintinophiles sont.
Ils sont chauds.
Plutôt violents.
Ouais, ils sont chauds. Et en fait, Corto Maltese va appartient aussi un peu à ce genre de public et de héros, ces gens qui aiment vraiment beaucoup. Il y a vraiment des fans. Alors, en fait, c'est simple. Corto Maltese, soit les gens adorent, soit les gens détestent. Il n'y a pas de entre deux. Et tout mon but, c'était aussi d'essayer de créer une œuvre qui puisse à la fois, c'est pas, je vais pas contenter, mais au moins d'essayer de rapprocher un peu les deux publics, et tout en essayant aussi d'aller trouver un autre public, et donc enfin d'un autre lectorat.
Le trait, le dessin, c'est un mouvement presque de sportif ou de danseur. Il faut s'entraîner, le répéter, le travailler, le modifier, ou on laisse aller sa créativité comme on sent.
Non, pour le coup là, moi j'ai augmenté mon dessin, j'ai essayé d'aller.
J'ai augmenté mon niveau.
J'ai fait des pompes et tout ça. Non. J'ai essayé.
Ça se voit pas trop les pompes.
Ouais, ça se voit pas trop.
C'est la chemise qui est là. Le vendredi, elle est là.
Elle attaque le physique des invités maintenant.
Octobre, ça va être long.
Pardon,
qu'est-ce que je disais? Non, pour le dessin, bah ouais, j'ai
augmenté. Vous expliquez augmenter.
Augmenter, c'est juste que je suis pas allé chercher les solutions et le dessin de Pratt. Je l'ai laissé à Pratt. Et par contre, moi, je suis allé chercher mon dessin et je suis allé vers avoir un petit peu plus de réalisme, tout en ayant un peu aussi gardé un peu la légèreté. Donc il fallait que je trouve un équilibre.
Mais est-ce qu'on pense quand on dessine un personnage, on l'imagine, on a une photo, on a un repère, on a un sourire qu'on veut reproduire, on a Alain Delon dans la piscine.
C'est ça. Lui, il était parti avec Burt Lancaster, David Bowie. Enfin voilà, le physique de Corto a vraiment bougé au fur et à mesure des années, ce qui aussi aide pour une reprise, parce que c'est pas, il l'a dessiné de cette manière-là, et donc on est obligé de la copier. Même le personnage de Corto à la base avait déjà bougé. Donc moi, je suis allé chercher aussi. Je me suis un peu arrêté aussi sur celui de Bowie. Je trouvais que le Corto à la fin avait quelque chose de très intéressant et très féminin qui me plaisait beaucoup. Burt Lancaster, j'aimais bien la virilité, mais bon, comme Leïla le disait, la virilité, j'ai encore un peu du mal à affronter cette partie de moi.
Mais
qui reste,
tu l'as blessé
à l'intérieur. Ouais,
hein. Tu l'as blessé.
Ça n'a rien à voir avec les muscles, Bastien, on le sait.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup.
C'est
un homme meurtri. C'est
très bien qui parle ici.
Il va falloir le tenir à bout de bras. Oui, c'est ça. Je suis choqué. Océan noir en étant. Alors, ce qui est fort, c'est que tout est noir et blanc. Ouais. Mais avec une palette de couleurs incroyable. C'est ça qui est fou.
C'est le métier. Mais
et drop the crayon.
Pas pour la virilité.
Non, pour le coup, moi j'ai fait le choix de.
Il est pas viril, mais il a un boulard incroyable.
Moi j'ai fait le choix de faire l'impasse sur la couleur et vraiment de garder la lumière. Et c'est grâce à la lumière pour la bande dessinée, c'est un outil formidable pour la mise en scène et pour créer des passages entre toutes les cases. La couleur,
C'est un peu une coquetterie. Donc si j'avais un an et demi de ma vie à perdre, je continuerais.
C'est des nuances.
Mon père est coloriste, hein, donc si vous pouviez éviter d'être pas
agréable. Eh ben qu'il vienne.
Bah il arrive.
On passe par la lumière la plus incroyable jusqu'à la vraie obscurité la plus profonde, et toutes ces nuances. Alors je sais pas si c'est un compliment, mais on finit par oublier que c'est en noir et blanc. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on recherchait.
Bah moi c'est la conclusion sur laquelle j'étais arrivé avec la couleur. C'est que les couleurs, on les a dans la tête et on se projette dans la BD. On n'est pas obligé de les mettre dans la BD. Enfin, moi, c'est mon avis et c'est le choix que j'ai pris. Alors, c'est sûr que peut-être que ça peut gêner quelques lecteurs ou lectrices, mais il y a aussi plein de prates qui sont sortis en noir et blanc. Il n'y a jamais eu de soucis là-dessus.
Et moi, je trouve que vous parvenez vraiment super bien à le revisiter, en fait, ce personnage. À titre personnel, les premiers albums, quand j'étais ado, m'ennuyaient, mais profondément. J'ai jamais compris l'attachement à ce personnage. Vraiment, je le trouvais caricatural, assez se cachant derrière des sortes d'élégance comme ça, mais en fait complètement
la beauté obscure, froide,
idiot avec les femmes.
Bah, c'est un fantasme de petit garçon.
C'est clairement ça. Rasputin éventuellement pouvait davantage m'intéresser.
Un peu plus crado. Ouais.
Plus crado, ouais. plus
Hélène,
voilà. Non, pas du tout. et je trouve que là, tout d'un coup, de le transposer dans une sphère plus contemporaine, de le voir évoluer différemment, c'est de le faire voyager vers autre chose. Et je le trouve beaucoup plus séduisant là, même s'il est toujours aussi bête avec les nanas. Mais je trouve que tout d'un coup ça me plaît de l'aimer, d'aimer ce Corto là, parce que j'avais détesté le précédent. Donc je me dis, c'est une chance pour moi de me réconcilier avec ce bonhomme, parce que si tellement de gens l'ont aimé, peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, ou alors qu'il est vraiment pas fait pour moi. Mais votre dessin, pour le coup, au-delà de l'intrigue, m'a fait du bien de le voir autrement, parce que le voir toujours stéréotypé sur son bateau avec son costume.
Ah, il a plus la casquette de main.
Ben ouais, mais non, je trouve que tout d'un coup il devient accessible à une autre ère de bande dessinée et à un autre type de lecteur.
Bah c'est surtout moi ce que j'ai poussé dans le personnage de Corto, c'est vraiment ses attitudes, de le voir vraiment vivre quand il regarde une femme, quand il fume une cigarette, toutes ces choses là et je l'ai vraiment dessiné avec aussi beaucoup de désir, en me disant j'aimerais bien être ce mec-là, et pas forcément dans une idée d'être ce mec-là pour être un super-héros et avoir plein de pouvoirs et tout ça, mais je me dis, si j'étais une nana, j'aimerais bien être...
Avoir Corto Maltese en face.
Ouais, en face de moi, non. Ou je sais pas. Mais bon,
j'ai pas l'impression que ce soit.
Non, si, physiquement, en effet, esthétiquement, mais après.
Après, c'est
une peine perdue,
que
c'est une cause perdue, ce garçon.
Bah, en fait, oui, c'est parce que il a quelque chose avec, entre guillemets, de la lâcheté et de l'égoïsme qui est propre à l'aventure.
Alors,
aussi, quoi.
Comment le définir? On a le côté reporter de Tintin, on a le Gaulois irréductible pour Astérix. Corto Maltese, ça veut dire quoi? C'est un marin, détective.
Non, moi, c'est ça qui est assez incroyable, c'est un personnage qui est absolument sans enjeu, c'est que vous prenez Corto Maltese, toutes les histoires de Corto Maltese.
Non, vous le vendez bien, Bastien, vous le vendez bien.
Et vous prenez toutes les histoires de Corto Maltese, vous enlevez Corto Maltese, il n'y a rien qui change. Mm. Vraiment, c'est incroyable. En fait, c'est le seul personnage qui ne sert à rien dans ses propres histoires. Oui. Et ce qui fait que ça donne ce goût et cette ambiance et ce côté si singulier à Corto Maltese. Et moi, ce que je préfère...
C'est quand même bizarre de dire un truc comme ça.
Vous l'aimiez avant, ce personnage?
Alors, moi, Corto Maltese, je l'aimais dans sa forme. Ouais. Dans le fond, j'étais encore assez un peu jeune, et puis j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Mais après, ce que j'ai aimé surtout, c'est la manière dont Pratt avait de faire parler les personnages entre eux. C'est quelque chose que moi, même si je croise quelqu'un que je connais dans la rue, je vais pas lui dire bonjour, j'aurais peur de le déranger. Donc imaginez Corto Maltese, je suis complètement à l'opposé. Et j'aimerais bien être comme Corto Maltese, d'avoir un regard aussi parfois juste on arrive. On réagit sur le moment présent. Si la tête de la personne nous revient pas, et ben
on le tue pas.
Normalement ne tue pas, mais en gros on sait réagir. Bah, il suit sa propre mais on suit sa propre sa propre liberté.
Tu voulais voir, oui, wow, il a raté, il
non,
a
mais
mal,
il tue pas pour tuer quoi, c'est
non,
pas
voilà,
un tueur à gages,
c'est pour défendre,
ils sont nombreux à dire ça.
Non, mais surtout il suit sa propre politique et sa propre liberté, et ça, c'est sa manière, c'est son libre arbitre, et ça, jazz, et je trouve ça incroyable. Il n'est pas influencé par tout un tas de choses. Il fait son truc, et si ça avance, donc voilà, c'est.
Oui, mais son moteur, c'est quoi? Parce que c'est ni la quête, je pense que ni la quête de la vérité, ni.
C'est ça qui est génial, c'est que tous les lecteurs et lectrices peuvent mettre les enjeux qu'ils ont envie. Moi, par exemple, quand je disais Corto Maltese, le moteur, ça a toujours été les nanas, enfin voilà, les femmes, c'était de rencontrer des femmes et tout ça. Et c'est la relation que je préfère. Et pour d'autres, ça va être le trésor, pour d'autres, ça va être l'aventure, le rêve, l'inconnu. Donc c'est pour ça que.
La secte,
en fait,
ce qui est
génial.
Ouais, aussi,
ouais, ce qui est génial, c'est que vraiment, Hugo Pratt faisait une place énorme au lecteur.
Alexis.
Ouais, je trouve que c'est une BD de contemplation aussi, Hugo Pratt, qu'on retrouve assez peu dans la bande dessinée en général. D'ailleurs, il y a même des épisodes où il n'y a pas de résolution au final.
Ça oui,
reste
complètement.
En suspens comme ça, et on a passé un moment un peu. C'est là où c'est presque de l'aquarelle parfois également les dessins, et c'est très reposant aussi.
Et puis pour on le voit tout nu.
Ah bah oui, bah moi j'ai fait un peu de fan service quoi.
Et ouais.
Parce que
généralement c'est que les nanas qui sont.
Exactement.
Qui sont mises en scène comme ça. Et là, pour une fois, on voit le postérieur. Voilà, on voit qu'il est beau. Ouais.
Il a un beau cul.
Ouais. Bah oui.
On voit qu'il est beau parce qu'il est. C'est-à-dire que si on l'est pas vu nu.
Non mais moi je suis contente de le voir nu parce que tout d'un coup, le Corto Maltese c'est aussi une bande dessinée qui moi me posait problème quand j'étais adolescente parce que je trouvais que voilà les femmes étaient toujours reléguées à un rôle assez décoratif. La femme est perdue, là on rencontre.
À certains dit, parce qu'il y a eu des personnages féminins très forts. Tout ça, bien sûr.
Oui, mais le problème, c'est que ça en devient caricatural, parce que tout d'un coup, on met plein de femmes décoratives, et dans un album, on va en mettre une très très forte et un peu revêche. Et donc, c'est même pas très très représentatif de ce qu'est la femme en réalité. Et là, de le voir aussi traité à égalité par le dessinateur, tu te dis, bah voilà, on avance.
Ça s'appelle Océan Noir, le nouveau Corto Maltese. Bastien, on est ravis de vous accueillir. Nous, on sommes ravis. Ce n'est pas le cas de Morgane Cadignan.
Encore
voilà.
Tous les jours, j'ai l'impression.
Elle ne vous aime pas.
T'es chaque fois.
Je suis chaque fois un Bastien Vivès. Je vous aime pas, mais comme c'est la première fois qu'on se rencontre, je vais essayer quand même d'être un petit peu douce et aimable. C'est normal. Attention, vous êtes prêts? Bonjour, bienvenue. Voilà. Non, trop dur. Après, au fond, je vous aime bien. Et pourtant, vous vous êtes permis de relooker un mythe, Corto Maltese. Non, mais c'est vrai, Bastien, vous avez été un peu la Christina Cordula de Corto Maltese quelque part. Non, alors là, Corto, ça va pas du tout. La redingote, on dirait le capitaine Haddock. Donc, on va partir sur une parka Carhartt et une casquette de baseball. Et comme j'ai un profond respect pour le peuple brésilien et pour l'humour français, vous noterez que l'imitation ci-avant était réalisée sans accent. Parce que après tu fais pas gaffe, tu imites Christina Cordula dans un sketch à la radio en 2021, à la sortie tu te fais kidnapper par l'équipe de 20h 50 loups, et j'ai pas envie d'aller travailler sur TF1, j'ai tellement peur de m'habituer à l'argent. Et il y a Jérémy Crédville en legging dans tous les couloirs, j'ai pas du tout
choquant,
envie.
Choquant.
Mais bref, Bastien, écoutez, il y a peut-être des puristes de Corto qui vont râler, mais moi franchement, depuis qu'il ressemble à un habitant du 10e arrondissement, je le trouve super sexy. Ouais. J'ai envie de lui foutre un tote bag bio, c'est bon, dans les mains et de l'emmener à la foire aux plantes dimanche. C'est bizarre, mais c'est pas la première fois que j'éprouve de l'attirance pour un personnage dessiné. Par exemple, mes premiers émois sexuels, c'était pour Scar dans Le Roi Lion. Je suis sûrement la seule trentenaire de France qui a les jambes qui tremblent en entendant la voix de Jean Reno. Mais ce visage balafré, là, je l'ai jamais retrouvé chez un homme humain. Bon, après, j'ai pas bien cherché parce qu'un visage un peu accidenté, en un coup de TER, t'es à Garche, et là, ça se trouve très bien. Après, un peu plus tard dans l'enfance, je suis tombée amoureuse de Lucky Luke. Heureusement que Jean Dujardin est venu me le saloper, sinon le fantasme, il serait jamais arrêté. Après, je suis tombée sur plein de mecs qui tiraient plus vite que leur ombre, mais aucun n'avait de cheval. Du coup, pas assez de raisons de rester. Corto Maltese, c'est vrai qu'il... fait rêver. Déjà, son métier, c'est marin aventurier. C'est vrai que l'année dernière, on a eu Jean Le Cam, et c'était chouette, mais l'avantage d'un personnage, c'est qu'il vieillit jamais. Mais Bastien, avant d'être styliste pour personnage de BD, vous êtes avant tout un dessinateur talentueux. En 2009, vous recevez le prix Révélation du festival, attention, quelqu'un peut tenir Leïla, s'il vous plaît, d'Angoulême.
C'est chez moi.
Pour la bande dessinée Le Goût du Chlore, sur deux jeunes qui tombent amoureux à la piscine municipale. C'est une BD que j'ai lue, qui est super poétique, à laquelle je repense parfois quand je suis à la piscine en train de nager à deux à l'heure, dans le couloir réservé à la nage rapide, parce que Le Goût du Chlore, il est cool, mais le goût de faire chier le monde, c'est quand même le meilleur. Et je me dis que celui qui tombe amoureux de moi quand j'ai le maillot, le pince-nez et le bonnet, ça sera vraiment un personnage dessiné par Bastien Vivès, qu'on adore, mais qui n'existe pas.
Et Morgane, on te retrouve sur scène du jeudi au samedi au Métropole
à 20h.
À 20h.
Bon, merci, les gars.
Bastien Vivès, quand vous avez mis votre plume, votre crayon dans l'histoire de Corto Maltese, ça a commencé par le scénario. Vous le connaissiez, ce scénario. Vous avez travaillé le scénario justement avec Martin.
Bah, avec Martin, oui, on a vraiment réfléchi à à toute l'histoire dans les grandes lignes, mais après je vais vraiment filer les mains, enfin voilà, les mains libres pour qu'il fasse tout le scénario, pour qu'il mette toute la trame.
Tom,
qu'est-ce qui motive un dessinateur à reprendre un personnage déjà existant?
Ce qui est vraiment génial quand on reprend un personnage comme Corto Maltese, c'est que, eh ben, dans l'inconscient collectif, il est chargé d'énormément de choses. Et donc en fait, on part avec un bagage de départ qui est très lourd. C'est que Corto Maltese, il va se mettre à boire une bouteille d'eau et tailler tout de suite. On est émerveillé parce que il fait appel à plein de choses dans l'imaginaire collectif. Et par contre, le truc, c'est que ça va être beaucoup plus difficile de faire entrer sa personnalité, de le faire aller sur des sentiers un peu de traverse et tout ça. Donc là, c'est vraiment donnant, quoi. Mais c'est vrai que le bagage de départ, il est génial, quoi.
Est-ce qu'il y a aussi l'envie de séduire des gens qui ne connaissent pas Corto Maltese, qui n'ont jamais lu et qui découvrent?
Bah, moi, je trouve que la bande dessinée, c'est quand même le médium de liberté aujourd'hui visuel, quoi. C'est vraiment, aujourd'hui, on peut se permettre de raconter énormément de choses, de mettre en image tout un tas de choses vraiment super. Et j'essaye à chaque fois, quand je fais une bande dessinée, de penser à ceux qui ne lisent pas de la bande dessinée, de les faire venir, de toujours laisser une porte d'entrée pour qu'on puisse, que ce soit par n'importe quel biais, que ce soit par l'humour, par l'histoire, les sentiments, plein de choses, qu'on puisse rentrer dedans et pas simplement raconter une histoire et obliger le lecteur à lire l'histoire qu'on lui a racontée.
Et il fallait pas que ce soit une espèce de tribute à Corto Maltese.
Surtout pas. Non, non. En aucun cas, il fallait simplement s'agir, parce que de toute façon, il y a un Hugo Pratt, il a fait son œuvre, et puis maintenant, j'arrive, et c'est pour ça que j'ai gardé mon dessin, j'ai gardé aussi ma mise en scène, et j'ai essayé d'épouser ce que Pratt avait fait sans pour autant redire, quoi.
Voilà, justement, à l'inverse, est-ce que vous êtes replongé dans tout ce qui avait été fait autour de lui pour ne pas reproduire même scène, le même geste?
Je pourrais clairement, si on avait un peu plus de temps, mais je pourrais clairement dire ce que j'aime chez Pratt, ce que j'aime pas chez Pratt, et j'ai vraiment fait la sélection pour éviter
de refaire un plan.
Ça pour le côté un peu pour j'ai un peu laissé plus dans l'histoire Martin, qui lui connaît très très bien toute l'œuvre de Pratt, et moi j'ai regardé un peu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas la même manière de raconter tous les deux. Donc évidemment, il va y avoir des ressemblances, mais elles seront un peu fortuites, quoi.
Et quand on dessine un scénario écrit par un autre, on découvre certaines phrases en disant « Mais qu'est-ce qu'il me fait faire là ? Pourquoi il me dit je sais pas, à tel endroit, il y a tel truc ?»
Bien sûr. Non, mais là, si je laissais Martin, il y aurait des citations et des phrases, et puis ça part. Et moi, à chaque fois, je coupe dans les dialogues, parce que...
Oui, c'est un taiseux. Il n'y a pas beaucoup de dialogues.
Ouais, parce que moi, je pense que ça passe toute la poésie qu'il y avait parfois aussi écrite dans les citations et dans les grandes discussions qu'il y avait aussi avec Corto Maltese. J'ai aussi pris le choix que ça va être juste simplement l'ellipse entre deux cases, un dessin, une légèreté. Et je pense que c'est le côté un petit peu plus moderne, parce que c'est une narration qui est un peu moins 70s, moins littéraire qu'on avait. Ouais.
Tom Villa.
Est-ce que justement reprendre Corto Maltese, c'est plus facile, entre guillemets, qu'un Lucky Luke qui est très fort, qu'un Astérix qui est très fort, qu'un Tintin qui est très très fort?
Ouais. Moi, je pense que c'est plus facile, parce que Corto Maltese, c'est pas un héros, c'est un mythe. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment un personnage sur lequel on peut clairement s'identifier. Et c'est pas un personnage qui, tout d'un coup, a un enjeu. Par exemple, Lucky Luke, si je le remets aujourd'hui, son enjeu, c'est quoi? Enfin, genre, c'est compliqué. Astérix, il va défendre le 12e arrondissement, ça va être un peu difficile. Donc, Corto Maltese, au moins, vu qu'il n'a pas d'enjeu, on peut le remettre à n'importe quelle époque et on peut vraiment se l'approprier, quoi.
Corto Maltese, alors, en noir et blanc à l'intérieur, l'océan noir, on y est totalement. La couverture doit être en couleur? C'est une demande marketing, ça?
Non, c'est aussi moi, j'aime bien. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, et c'est
Bastien, faut savoir.
Je sais. Mais ce qui est bien, c'est que on voit la couleur au début. On a vu une image en couleur. J'avais aussi sur Lastman où j'avais mis les 10 premières pages en couleur. Ce qui fait qu'on a l'idée de la couleur dans la tête, et on lit du noir et blanc et on s'en rend pas compte, et on a déjà un peu les couleurs. On voit.
On est manipulé, quoi.
Totalement.
C'est un
art. On a économisé la couleur. Même le format est différent. Avant, les Corto Maltese, on est d'accord, c'était format BD traditionnel avec les grosses couvertures épaisses.
Avant c'était dans Pif, dans des magazines. De toute façon, la BD, c'était tellement de formats, mais c'est vrai que le format qu'on a aujourd'hui actuel est plus cartonné classique.
Ouais, là on est quoi? On est dans un roman dessiné,
c'est une graphic novel.
C'est ça. OK, d'accord. Chez Casterman Corto Maltese, avec ses signatures donc de Bastien Vivès, Martin Kenéen, évidemment Hugo Pratt, ça s'appelle Océan Noir. Voici monsieur Alexis Le Rossignol.
Et bonjour à tous.
Et bonjour à toi.
Ça va bien?
Vous allez, oui.
Parfois, je me dis que ça doit être sympa d'être président de la République. Ouais. Ça saute pas aux yeux, hein, mais il doit y avoir des moments agréables. C'est pour ça qu'il cherche à se faire réélire. Si c'était nul, il ferait un mandat et basta. Ça doit être sympa, surtout quand tu sens que ton peuple t'aime, comme Kadyrov en Tchétchénie, là, qui vient de remporter les législatives dans son pays, avec 99,7% des voix favorables. Ça doit être un chic type, ce mec, pour faire l'unanimité comme ça. Bravo à lui. D'ailleurs, quand un président gagne un scrutin, souvent le président français prend son téléphone pour le féliciter. Mais là, j'ai regardé l'agenda d'Emmanuel Macron et apparemment, il l'a pas fait. Donc voilà, modestement, je répare ce petit couac diplomatique. Bravo, Ramzan. Ça doit être sympa d'être président aussi quand tu reçois les sportifs pour les féliciter. C'est après les JO et tout ça. Il y en a 80 devant toi, t'en connais 5, mais à chacun, tu dis bien joué, bien joué. Il y en a qui te dit, mais moi, je suis huissier, en fait, je travaille ici. Bien joué quand même. Puis parfois, ça va être sympa aussi quand tu fais des annonces cool, des annonces où il n'y a pas trop d'enjeux. Par exemple, cette semaine, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait ouvrir un centre d'excellence dédié à la gastronomie pour former des chefs dans le but de faire rayonner la cuisine française à l'international. Bon, ben là, annonce cool, quoi. Et il a précisé, ce serait une sorte de Clairefontaine, mais pour la cuisine. Ça, c'est pour faire comprendre aux gens qu'il ne parlait pas de l'ouverture d'un Courtepaille sur l'Assise, tu vois. Ça aurait pu remarquer, parce que Courtepaille, c'est vraiment l'excellence à la française en bordure d'autoroute. Moi, à chaque fois, je prends andouillette, ben, j'ai jamais été déçu. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Jeanne Moreau était fan des andouillettes de Courtepaille aussi. C'est vrai, elle l'a dit une fois dans Les Grosses Têtes. Donc ça a pas l'air. Ah c'est bon vrai, c'est vrai.
Alors, c'est vrai. Ah
oui, oui, tout oui. À fait. Mais t'as bossé, hein.
Ben oui, oui. Wow. C'est trop beau. Donc ça a l'air, ça a pas l'air, mine de rien, ce genre d'annonce. Mais c'est de la réelle politique. Mais oui, je parle plus des andouillettes, là.
Ah bon.
On se fait annuler le contrat des sous-marins. Action, réaction, on contre-attaque avec le pâté. Pâté power, quoi. Là, au moins, on est sûr que les Américains vont pas nous la faire à l'envers. En économie, ça s'appelle la théorie des avantages comparatifs. Macron s'est dit, alors, dans quoi on est encore bon en France? Là, ça a pris un peu de temps, il s'est gratté la tête comme ça, il était là. Les TGV, ah bah non, on a cédé la technologie. Dommage. Hein. Le nucléaire, pareil, décidément. Les boules de pétanque. Ah, ça, c'est pas con, les boules de pétanque. Mais ça joue pas partout. À ce moment-là, Brigitte lui a dit, Emmanuel, à table! Et là, il s'est dit, hey, la bouffe! Voilà! 4 ans et demi à la tête de la Startup Nation pour, in fine, s'apercevoir que ce qu'on fait de mieux, c'est les escargots et les bouchers à la reine. On aurait mieux fait d'élire le chef Dumas à la tête du pays, on aurait gagné du temps. Vous voyez que c'est le chef Dumas, non, sur YouTube? C'est un chef super nickel. Fourchette au repos. Non, vous l'avez pas?
Non.
Il faudrait regarder alors, parce que sinon, ouais, parce la blague n'est pas excellente.
On n'a pas la vanne.
C'est sûr.
Mais si nous, on l'a pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde.
Merde.
Ah ouais.
Ah, c'est dommage.
Rudy, change de blague?
Chef du mal.
Je sais pas, Pierre Martinet, par exemple, le traiteur intraitable.
Ouais. Voilà. On bouge taboulé, ouais.
Si je me marie un jour, c'est lui que je choisis, quoi. Alors, c'est une belle idée d'ouvrir un Clairefontaine de la cuisine. Mais pas de peau. Personne n'en a parlé parce qu'il s'est pris un œuf sur l'épaule le lendemain au salon de la gastro à Lyon. De la gastronomie, j'entends. J'ai cherché, il n'y a pas de salon dédié à l'autre gastro. Et donc forcément, l'œuf, ça a fait diversion, on a parlé comme ça. D'ailleurs, si j'étais président, je crois que de temps en temps, les jours où j'aurais des mesures impopulaires à annoncer, je dirais à des copains, les gars, j'ai un petit discours à faire demain, venez avec des œufs. Quand je commence à parler des retraites, vous balancez, quoi. En tout cas, la France, c'est Rabelais, c'est Depardieu, c'est entrée, plat, dessert, Dijon. Il a raison de miser là-dessus. Selon l'OCDE, on est le pays où l'on passe le plus de temps à table, 2h15 en moyenne par jour. Après, quand tu vis dans un studio à Paris, la table de cuisine, c'est aussi ton bureau et ta planche à repasser. Ça fausse un peu la moyenne, mais bon. Paradoxalement, la France, c'est aussi le pays au monde où on mange le plus de fast-food après les États-Unis. Mais on les mange lentement, donc ça va. Il y a quand même un truc qui m'insupporte au sujet de la bouffe en France. Et ça fait longtemps que je voulais en parler. Je pense que c'est le bon moment d'ailleurs. C'est ces restos où on te sert des plats avec dans le coin de l'assiette 3 pauvres feuilles de salade défraîchies et 1/4 de tomate arrosée de vinaigrette industrielle. Vous le voyez, ce quart de tomate? Il est là hiver comme été. On ne sait pas si c'est de la déco ou si c'est comestible. Pour moi, c'est l'équivalent culinaire des statuettes africaines chez Jiffy, quoi. Je suis sûr que dans certains restos, avant de nettoyer les assiettes, ils la récupèrent, ils la rincent et la remettent sur une autre assiette. Il y a 3 tomates, elles font tout le service. Bon, ben, c'est vrai qu'il n'y avait pas de quoi faire une chronique de 4 minutes là-dessus, mais j'avais envie d'en parler, quoi. Donc, avant de viser l'excellence pour l'export, si on peut instaurer une loi qui interdise ce petit bout de tomate, ce serait pas mal. Voilà. À la place, par exemple, on peut mettre des carottes râpées. Par exemple, hein. C'est bon, les carottes râpées.
Oui.
En plus, les carottes, ça prévient du cancer.
Ah.
Vous saviez ça?
Non.
Par exemple, t'es un gros fumeur, tu manges une carotte, bon, bah, t'es prévenu que tu dois avoir un cancer. Voilà. Allez, bonne journée.
Merci.
Alexis Le Rossignol au théâtre Le République du le jeudi et samedi.
Roi de la chute.
très bien cette chute sur les carottes.
Formidable.
Ah bah la carotte aura prévenu.
Ouais,
moi. Bastien Vivès, du haut de vos 27 ans, vous êtes le plus jeune autour de cette table. Vous avez toujours.
Il a pas 27 ans.
Attends, je sais plus quel âge.
Bah,
non, j'ai 37.
37
ans. 37 ans, ça me paraissait.
Mais même 37, c'est le plus jeune.
Le plus jeune.
Vous. Morgane.
Bah, oh. T'as moins, mais tu fais plus, Morgane. C'est, ouais. c'est là ta
j'ai
force.
J'ai pris un petit coup de pelle le mois de septembre.
C'était un tracteur derrière, non ?
Vous avez toujours voulu faire ce métier de dessinateur ?
Dessinateur, oui. Oui, toujours, j'écrivais dessinateur quand j'étais petit.
C'est vrai ?
Ouais, ouais, à la maternelle, ça. C'était toujours très, très sérieux, le dessin.
Et pour être dessinateur, il faut être doué et ensuite, pour avoir du talent, il faut travailler ou il faut laisser faire ça ?
Non, il faut juste pas s'arrêter, quoi, c'est tout. Hein. C'est là où tout le monde s'arrête, et ben, il faut juste continuer.
Donc ça s'apprend ?
Oui, complètement. Puis même, je pense que là, tout le monde autour de la table, si pendant un an, je vous fais un petit peu bosser le dessin, et puis au bout d'un moment, vous arriverez à ressortir quelque chose. Mais je vous jure, je vous jure.
Vraiment.
Tu arriveras à faire, dessiner cette bouteille d'eau, à la dessiner sans aucun problème.
Enfin, un an pour une bouteille d'eau, franchement.
Est-ce qu'il y a.
C'est un
boulot. Autant prendre une photo, franchement, on perd du temps. Est-ce qu'il y a des objets, des situations, des positions du corps qui sont plus difficiles pour vous?
Oui, oui, bien sûr. Dès qu'il y a des contacts et dès que le personnage est mis en situation dans un environnement, c'est toujours très compliqué. Et le pire étant, quand c'est dans une jungle, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, là, si c'est dessiner tous les gens au bureau, c'est très compliqué parce que chaque proportion a une taille bien précise. On sait qu'un bureau, c'est à 80 cm. Enfin bref, on a... Et tout ça, notre regard l'a enregistré, ce qui fait que si on dessine un bureau un peu plus haut, une chaise un peu trop basse, tout d'un coup le coude va pas arriver au bon endroit et tout. Donc mettre des personnages dans l'espace, c'est ce qu'il y a de plus difficile en
donc la jungle est plus facile que le bureau.
Largement, parce qu'une jungle, tu fais un peu des feuillages n'importe comment, il y a pas de problème. Ouais. Et ça
c'est génial.
Ce qui est intéressant avec votre dessin, Bastien Vives, c'est qu'en fait il me semble tellement simple. Quand j'ai ouvert l'album Corto Maltese, je l'ai lu en très très peu de temps et je me suis dit super, ça veut dire qu'il m'a embarqué, il m'a emmené ailleurs et que le dessin ne m'a pas posé de problématique en termes de lecture, c'est-à-dire que je me suis pas ennuyée, je me suis pas arrêtée à un moment sur une case en disant qu'est-ce qu'il a voulu dire. Parfois c'est le cas, on est un peu arrêté par une forme de complexité du dessin et je trouve que dans les lignes que vous trouvez, dans la façon dont voilà, vous représentez les personnages ou les lieux,
il y a un petit côté dépouillé aussi par moment.
Il y a quelque chose de très simple et je pense que c'est beaucoup de boulot d'arriver à un truc très simple.
Merci beaucoup parce que moi c'est vraiment le confort de lecture, c'est ce que j'essaye de privilégier le plus dans ma narration. Vraiment parfois, de se sentir bien et de...
Quoi ? Il a qu'un œil parfois, Corto Maltese. Il y a vraiment, c'est simplifié au maximum.
Ah, c'est parce que j'ai dû oublier le. Normalement, il en a deux.
Simplifié et pas finir.
Non, mais simplifier, c'est compliqué en fait, je pense. C'est vraiment compliqué de simplifier.
Ouais, il faut arriver à faire passer les informations, l'émotion, tout ça, et avec peu de
travail.
Avec un œil. Genre, il est coquin, Corto. Il est toujours en train de.
Et Jean-Marie.
La musique dans la vie de Bastien Vives. On va parler encore bande dessinée avec Jean-Christophe Augier, qui est journaliste spécialiste à France Info de la bande dessinée. Mais d'abord, la musique avec Neil Young pour commencer. Neil Young, c'est pas de votre génération quand vous êtes tombé dans Neil Young et Crosby, Stills, Nash.
C'est sur cet album et cette chanson que mes parents se sont rencontrés. Et
vous étiez là.
Et depuis, ma mère n'a jamais
voulu l'entendre.
C'est trop... Non, mais c'est horrible. Parce que c'est une belle chanson, j'aime beaucoup.
Détruite, on est désolé.
Ouais, parce que maintenant, je me dis que mes parents, ils m'ont vu arriver. Bref. Et comme The Time, ils se sont rencontrés sur cette chanson. Et depuis, ma mère, elle a jamais arrêté d'écouter Neil Young. Et donc, et vu que j'adore cette chanson aussi, je suis content. Il y a un truc émotionnel dans votre
ADN que votre maman vous a.
Ah, c'est sûr,
transmis.
C'est sûr. Puis même, j'ai adoré grandir avec toute la discographie de Neil Young qui passait en boucle.
Et votre mère était comptable dans une société d'animation,
d'effets spéciaux.
Et votre père est peintre de décors pour le cinéma, illustrateur.
Ouais.
Il a travaillé avec de grands réalisateurs, notamment.
Cinéma Painting, il a travaillé avec René, avec.
Bilal.
Avec Bilal, bien sûr, avec Jeunet.
Et vous ça veut dire quoi, matte painting ?
Matte painting, c'est, il recrée. Maintenant, on fait ça sur ordinateur, mais avant, on peignait ça. On peignait des décors sur des plaques de verre qu'on mettait entre la caméra et le décor. Et ce qui fait que, par exemple, on filmait une colline, on peignait un château sur la plaque de verre, et avec un système de trucage, et ben, on voyait on mettait la plaque de verre entre la colline et la caméra, puis hop, on voyait le château sur la colline. Et lui, il faisait ça, il peignait sur les tournages, il peignait des, tous les décors.
Génial,
et tout ça.
Ouais. Je savais pas.
Et maintenant, on fait ça sur ordinateur.
D'accord.
Et il vous a contraint, à, entre guillemets, à dessiner depuis le plus jeune âge, quoi. C'était non, visite musée, c'est...
Ouais, il a senti que, il a senti. De toute façon, c'était simple. C'était vraiment le dessin était, l'art était au-dessus de tout et le dessin c'était très sérieux. Et on a grandi avec ça, avec ce que c'était de représenter des choses, ce que c'était que l'image. On a une vraie éducation sur l'image, qui je trouve se perd un petit peu ces temps-ci. Et il faut
l'éducation sur l'image, c'est de reproduire très pour très un objet ou une situation ou de l'interpréter.
Non, de l'interpréter et de comprendre qu'une image ce n'est pas la même chose que la réalité. Qu'un dessin, ce n'est pas la même chose que la clarté, qu'un dessin, ce n'est pas la même chose qu'une photo. Et c'est tout de comprendre les représentations. Et bon, moi, j'ai grandi avec ça. C'est sûr que, après, quand il y a eu les Charlie et autre chose, j'étais très, très, très touché par ça et de voir qu'on arrive encore aujourd'hui, alors que l'image est très présente dans nos vies, on n'arrive toujours pas à interpréter, à comprendre les images, quoi.
C'est quoi la définition d'un bon dessin pour vous?
Un bon dessin, pour moi, c'est celui qui fait passer, l'information, l'émotion vraiment l'émotion. Je pense que c'est vraiment ça. Et aussi
donc ça peut être une caricature comme une toile
de maître et tout ça. Maître, ouais. Vraiment, j'ai quand même toujours dans l'idée qu'il est un peu narratif. Mais après ça c'est ma déformation quoi. Ouais,
En 2007, vous écoutiez Georges Moustaki.
Je déclare l'état de bonheur permanent. Et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège, quand il y a pour tous des roses et du pain blanc.
Georges Moustaki qui n'a pas fait que Allez venez Milord pour Édith Piaf, qui avait aussi des textes engagés. Les métiers artistiques doivent être utiles à quelque chose, c'est-à-dire dans un engagement ou dans un...
Non, ça, je pense pas que ce soit une obligation. Je pense qu'après, si on sait le faire et qu'on le fait bien, il y a pas trop de problème. J'adore cette chanson. Et Moustaki aussi, lui, m'a accompagné vraiment pendant toute ma vie. Je l'écoute encore régulièrement aujourd'hui. Et puis j'avais envie de passer aussi cette poésie, ouais, voilà, ça, et cette poésie. Chanson.
Et c'est la sortie en 2007 de votre premier album, Elle, déjà chez Casterman. Et vous ouvrez aussi à cette même époque avec vos parents et votre frère une galerie.
Ah, en fait, je récupère l'ancien atelier de mon père et avec des amis, on en fait un atelier de BD. Et c'est 10 ans plus tard que ça deviendra la galerie de mes parents.
L'idée initialement, c'était quoi, d'accueillir des dessinateurs, des artistes.
C'était de pas être tout seul pour dessiner, quoi.
Ouais.
C'est ce que
franchement, j'ai peur.
Si on est tout seul pour dessiner, au bout d'un moment, on devient aigri, on se tire une balle, quoi. Donc c'est compliqué. Et puis vu que j'avais pas devant moi la montagne Sainte-Victoire et tout ça, donc j'étais dans le 12e, et c'était bien d'avoir des potes, quoi.
On me rappelle que Riyad Sattouf a le même raisonnement aussi.
Ouais, c'est très important.
Il faut un côté, il y a un collectif comme dans le rap, il faut se retrouver à plusieurs.
C'est l'émulation, il faut parler, même si on n'est pas en train de regarder tout le temps le boulot de l'un et de l'autre, mais c'est important de sentir qu'il y a d'autres gens qui dessinent, on est en train de discuter et pas se retrouver isolé parce qu'on peut très vite, surtout aujourd'hui et à notre période où en fait, les gens ont un peu l'impression que les potes sur les réseaux, enfin voilà, on vit complètement tout seul et on a tous les réseaux autour. De travailler avec des vrais gens et puis d'avoir des discussions.
Mais ça veut dire que le bruit ne gêne pas la musique?
Non, du tout. Au contraire, on dessine toujours en musique, en parlant. Souvent j'ai les plus grandes discussions qu'on a eues, c'était en train de discuter. C'est un peu comme les belles discussions de téléphone. On griffonne, on laisse aller son
Et donc vous
son
discutez,
esprit.
Mais ça n'a rien à voir avec le dessin.
Non. Et puis on est en train de dessiner tranquillement.
Et puis des fois, t'oublies un œil. Ouais.
Voilà.
En 2009.
Encore tu. L'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile.
Ma lasciarti non è.
Oui, j'ai la châtimolée, t'as
dit. C'est ce qui venait.
Voilà.
C'est une connaissance de l'italien.
Ouais,
c'est...
je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il l'a dit.
De t'abandonner, c'est impossible. Il n'arrive pas à quitter cette
langue.
Ouais, je parle un petit peu italien.
Et surtout, oui, c'est une langue qui est pratiquée un peu.
Il a tous les talents.
Non, mais c'est. Je trouve ça. C'est, en fait, il a beaucoup de plans drague, Bastien.
Ah,
je suis sûr que l'italien, c'est un plan drague.
Franchement, si j'arrive avec salut, je parle italien, je sais pas si aujourd'hui ça marche
non,
encore.
Si, mais... si vous le dites en italien, ça marche.
Non, mais chez Pizza Pike, là, avec une calzone, une margarita. Tranquille.
Dites-le, salut, je parle italien en italien.
Ah, ciao, parlo italiano.
Ça ouais. marche déjà. Ça, c'est déjà. Ouais. Moi je valide. On est en 2009.
Elle est convaincue.
Ouais, je valide. Elle est fragile.
Bah oui, elle est fatiguée.
Elle est sensible.
On est en 2009. On l'a évoqué avec le goût du chlore. Et d'ailleurs, on parle d'amour et de drague. Ça vient d'une déception amoureuse, cette bande dessinée.
Ouais, ouais. Et puis surtout que la nana, elle était italienne. Alors, c'est 2009. Pour moi, j'ai bouffé toute la. Non mais j'ai fait toute la discographie italienne. Heureusement aujourd'hui je me suis un peu arrêté à Battisti et tout ça, mais avant j'étais parti même sur du Laura Pausini et tout ça.
Elle m'avait vraiment mis au fond du trou.
Et Bastien, d'où vient votre amour pour les gros seins?
Depuis tout petit.
Tu sais qu'on a l'antenne.
Bien sûr. Mais il me répond parce que c'est pas complètement fou comme question.
Non, merci. C'est normal. Ouais, mais parce que si c'est quelque chose qu'ils ont
si
aussi.
Si tu aimes Bastien Vives, tu remarques qu'il y a des gros seins.
Ah bah ça. Mais oui, mais parce que moi j'ai toujours aimé et adoré dessiner les grosses poitrines et surtout les.
Non, mais moi je les ai pas trouvés gros. Ils sont.
Non, mais dans Corto Maltese.
Non, pas dans Corto.
Petit Paul.
Non, ou d'autres, voilà. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours été impressionné par ça. Et puis, j'ai toujours aimé les dessiner parce que j'ai toujours aimé le côté un peu encombré de la grosse poitrine. Le fait que les nanas qui ont des grosses poitrines se tiennent un peu différemment. Elles sont empêchées dans certains.
Tout
ça,
entravées,
et
ben,
mon cerveau, ça donne des choses.
Ça donnait les melons de la colère.
Ça donnait les melons de la colère et tout ça. Et j'aime bien. Puis il y a un côté très cartoon aussi. Mais là, je parle vraiment de mon regard et de ce que j'aime, quoi. Donc c'est très très personnel. Ouais.
En 2012, vous écoutiez Stéphane Escher.
C'est Paulina en 2012. Une très belle BD parce que tout d'un coup se mettre à dessiner des danseuses, avoir ce sens du mouvement, cette élégance aussi. C'est un album qui a eu un grand succès d'ailleurs, qui a été beaucoup vendu, dont on a beaucoup parlé. Comment est partie cette envie tout d'un coup de mettre en scène une danseuse, cette Paulina justement?
Je voulais parler de l'artistique, quoi. Enfin, je voulais parler de ce que mon père m'avait appris, que l'art était au-dessus de tout. Et donc je voulais parler de dessin, mais dessiner dans une BD c'est compliqué. Dessiner des personnages qui dessinent dans une BD, c'est compliqué. Donc la danse classique, c'était parfait pour ça. Et donc je me suis plongé dans la danse classique.
On n'est plus dans les gros seins. La danse classique, généralement, ça ne va pas. Non, il n'y a pas de poitrine.
Ça marche un peu ça. Mais c'était des fois j'ai envie de parler des gros seins. Des fois j'ai envie de parler de danse classique. Voilà.
Pas tout le temps, quoi.
Je sais ménager mon lectorat.
Et ça a été adapté en film.
Ça a été adapté en film.
Complètement. Absolument. Avec Juliette Binoche. Oui.
Nous recevons Jean-Christophe Augier, donc bienvenue à votre micro, Jean-Christophe. Vous êtes journaliste spécialiste de bande dessinée. Vous présentez BD bande dessinée chaque dimanche sur France Info avec ce malicieux principe de rediffusion et de vous retrouver régulièrement. Nous parlions tout à l'heure de Tintin, Astérix, Lucky Luke, Corto Maltese. Est-ce qu'on parle de marque dans le monde de la BD ou de caractère?
Les deux mots général évidemment, mais on commence à parler de marque, bien évidemment. Mais il faut pas que derrière ce mot marque, on oublie la création, on oublie qu'il peut y avoir de très très belles choses qui sont faites. Je le dis tout de suite, évidemment, il le sait déjà, je suis fan du Corto. De toute manière, je suis fan de Bastien Vives. Donc,
et voilà. Des gros seins.
Pourquoi
Bastien Vives? Alors, on parlait de Paulina. Quand j'ai découvert... moi. Alors il y a un truc, la bande dessinée, ça fait rarement pleurer. On rit beaucoup avec la bande dessinée, il y a plein de bandes dessinées qui vont rire, mais très peu de bandes dessinées n'arrivent à vous faire pleurer, contrairement au cinéma ou à la littérature. J'ai pleuré deux fois dans ma vie avec les BD, dont les 10 premières pages de Paulina, où j'étais tellement emporté par l'émotion de cette petite fille qui regardait à travers la vitre de la voiture qui l'emmenait. Je savais déjà qu'on avait un chef-d'œuvre, et effectivement, ce fut un chef-d'œuvre.
Et vous êtes sensible.
Oui, je
suis sensible. Et les autres pleurs, c'était quoi?
En l'évoquant, en tout cas, vous revoyez les images
Tout à fait. Et d'ailleurs, nous lui avons décerné le grand prix de la critique bande dessinée à Paulina cette année-là.
Et vous avez pleuré pour quel autre album?
J'ai pleuré, mais alors là, c'est peut-être plus intime pour les mauvaises
gens. Pour Lucky Luke contre Mad Alton.
Pour les mauvaises gens d'Étienne Davodeau, quand je suis arrivé à la fin, et où j'ai vu tout ce parcours de vie, puisque c'est un album autobiographique qui parle notamment de la vie de ses parents, et comment ça se concluait par un espoir, et je trouvais ça vraiment très touchant.
Alors, comment analyser et comprendre l'idée de reprendre, et c'est pas du tout un reproche, de reprendre une marque ou une légende comme Corto Maltese, comme Lucky Luke, Astérix, et de continuer de les faire vivre sans abîmer justement cette légende.
C'est pas facile sans abîmer. Mais si on n'est pas dogmatique, parce qu'on peut dire, il faut pas reprendre les personnages à la mort de leur auteur, et ben on s'arrête là et puis c'est tout. Et puis finalement, si on voit des réussites comme celle-ci, on se dit il y a quelque chose qui est dans l'ADN de la bande dessinée, qui est que les personnages court longtemps dans, non seulement dans leur vie de personnage, mais dans l'esprit des lecteurs, un peu comme au cinéma James Bond et compagnie. Donc pourquoi pas essayer de voir ce qu'il est possible de faire de manière pertinente.
Est-ce qu'il faut que les dessinateurs de leur vivant disent oui ou non, j'accepte que ça continue après moi?
Bien sûr, et d'abord ils ont le droit. Hergé a dit je ne veux pas. Même s'il ne l'a jamais écrit quelque part.
Et qu'est-ce qui va se passer alors avec
on verra bien, parce que il ne l'a jamais écrit. Non, je ne vois pas l'avenir.
Est-ce qu'il y a un moment où ça tombe dans le domaine public?
Ah bah, 70 ans après, on se
demande. Il y a Mickey qui va arriver là, dans le domaine public. Là. Steamboat Willie, là, ça arrive dans 5 ans. Là.
N'importe qui pourra dessiner Mickey.
Ouais, et là ils sont les États-Unis, là ils sont en train de mais ils vont trouver une petite parade,
un truc. L'idée est là, c'est que en ce moment dans les maisons qui possèdent les droits et on parle sur certains personnages et sur certaines productions en millions d'euros, voire beaucoup plus. Avec un copain, regardez ce que valait Tintin. Rien que si on prend à minima une page, rien qu'en droit de vente, une page de Tintin aujourd'hui, c'est à minima 100 000 euros si on les met toutes la page. Si on les met toutes sur le marché en même temps, vous imaginez sur un corpus de 24 albums à 60 pages ce que ça représente. Mais au-delà de ça, les droits que ça a dû se négocier avec Spielberg pour le film, par exemple, c'est monumental. Donc, c'est un trésor. C'est aussi un trésor culturel. Que peut-on faire de ça? Bah, alors, moi, je crois qu'il y a des bonnes choses. J'ai pris une claque avec le corto de Maltès, de Vivès et de Martin Kénéen, parce que tout d'un coup, là, il y avait quelque chose qui à la fois respectait totalement ce qu'était le personnage. Je retrouve entièrement Corto Maltese dans le travail qu'ils ont fait, entièrement Corto Maltese. Et pourtant, immédiatement, dès la première image, on est dans un monde contemporain, on a un personnage qui ne ressemble plus du tout à celui qu'on a connu, et ça marche.
Et mais pourquoi ne pas créer de nouveaux héros?
Alors là, vous posez une très bonne question. Évidemment, le problème de continuer les marques parce qu'elles représentent, comme on l'a dit, l'ADN de la BD, mais aussi des enjeux économiques importants, fait sans doute qu'on a moins de création de nouvelles séries. Et c'est dommage et c'est grave. Et ça correspond peut-être à un moment où l'écosystème de la bande dessinée fait qu'il est très difficile, avec 5000 nouveautés par an, d'émerger, de faire émerger les choses. Mais tout le monde a commencé petit. Le premier 13, parlons d'une marque 13, il s'est vendu à 3000, 3500 exemplaires, le premier. Il a rendu ses créateurs millionnaires quand même. Astérix, les premiers Astérix se sont vendus, le Astérix le Gaulois, c'était quelques milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, Astérix, c'est 5 millions à la mise en place, 2 millions en France, 3 millions dans le reste de l'Europe. C'est même plus un enjeu de création, je suis désolé de le dire à la radio, en ce qui concerne Astérix, c'est un enjeu marketing. Les années où il y a un Astérix, on vous dit
En tête des ventes, de toute façon.
Ben, on le sait que ça va être en tête de vente, on sait même que ça va être en tête des ventes de tous les livres qui vont être publiés cette année-là. Mais dès le 1er janvier, on nous dit, et voilà, c'est l'année Astérix, vous ne saurez que le titre, et encore pas tout de suite. Et il sort là dans 15 jours, et personne, évidemment, n'en sait rien encore.
Ouais, mais il y a plein d'autres héros. Il y a les séries Black Sad, il y a les Parker.
Formidable, Black Sad est une belle série. Il y a un nouveau qui arrive là, qui est très bien, au demeurant. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu à ce micro, Jean-Christophe Augier, et on vous retrouve donc dans deux jours, dans deux dodos, dimanche sur France Info. Voici les prix remis par Monsieur Tom Villa. prix de la semaine, Tom ?
Eh bien, le prix de la semaine, c'est le prix de l'investissement de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont... Premier nommé, le smartphone. C'est l'investissement qu'il faudra prévoir pour vos jeunes parce que il faut désormais un pass sanitaire depuis aujourd'hui pour les, depuis hier, pardon, pour les 12-17 ans. Le Covid, il y a pas plus belle excuse pour gratter un iPhone à Noël. Hein, bien joué. Deuxième nommé dans la catégorie de l'investissement de la semaine, c'est le gaz. Il devait augmenter aujourd'hui de 15%. Et finalement, Jean Castex l'a annoncé hier, son prix sera gelé jusqu'en avril. Bonne nouvelle pour tous les pauvres. Vous avez encore 7 mois pour vous suicider. De façon pas trop chère.
Quel enchaînement !
Troisième et dernier nommé, Jeff Bezos, qui investit dans une start-up de rajeunissement des cellules. J'aurais été lui, j'aurais investi d'abord dans les implants. Non, mais j'ai rien contre les chauves, mais il a quand même un peu la tête du méchant dans Superman. Et le grand gagnant dans la catégorie de l'investissement de la semaine est...
Le gaz.
Jeff Bezos. Alors, Tanguy en a parlé il y a 2-3 semaines, mais bon, si franchement on peut plus traiter les sujets que Tanguy a déjà pris. Il fait 218 chroniques par mois, il me reste les chouquettes dans le Limousin qui ont augmenté et le faucon tueur de chat en Ardèche. Franchement, voilà.
Ça j'ai fait.
Jeff Bezos, pardon, bon, bah, il m'en reste qu'un. Non. Jeff Bezos a donc investi massivement dans la start-up Altos Labs qui travaille sur le rajeunissement des cellules dans l'idée d'offrir une sorte d'immortalité aux êtres humains. Bah, c'est super, c'est vrai, quand t'es Jeff Bezos, c'est, en revanche, t'es Véronique Jeunesse moins. Mais bah si, milliardaire immortel, c'est cool. C'est après, il est malin, Jeff. Il investit dans un truc pour l'aider déjà lui, 200 milliards de fortune personnelle. Bezos, il a 57 ans. S'il lui reste 40 ans à vivre, il aura jamais le temps de tout cramer. D'ailleurs, même avec 200 milliards, même s'il lui reste 200 ans à vivre, 1 milliard par an, va falloir y aller. Vous connaissez le drame quand t'es ultra riche? C'est que plus le temps passe et plus t'es riche. C'est un enfer. Voilà. En revanche, il va devoir payer une pension à son ex-femme pendant 200 ans. C'est putain de long, hein. Après, immortel. D'ailleurs, on sait pas si c'est bien ou pas. Tu sais, c'est un peu comme un chocolat mon chéri. Ça donne envie. Puis quand tu l'as mangé, peut-être que tu regrettes, tu vois. Non, mais imaginez, je sais pas. Au pif, Éric Zemmour, il est immortel. Faites pas la grimace comme ça. Je dis ça, il fait ce qu'il veut, c'est pour lui. Après, s'il a envie d'être immortel, qu'il y aille. Mais attention, Eric, à mon avis, dans 500 ans, il y aura encore, si ce n'est plus, de musulmans. Je sais pas si son petit cœur va supporter. C'est... Bien sûr, Eric Zemmour, il a un cœur. Ouais. On l'a découvert la semaine dernière qu'il avait un maillot de bain. Donc, s'il avait pas de cœur, il se serait baigné tout nu. Bref, Jeff Bezos a investi dans la régénération cellulaire. Et à chaque fois qu'il investit dans une start-up, tu sais que derrière, c'est pour un truc flippant. C'est, en plus, on le verra jamais. Je vous le dis, hein, l'immortalité, les voyages sur Mars, il y a peu de chance quand même. De temps en temps, il pourrait investir dans un truc qui, je sais pas, un peu plus concret, feel good, je sais pas, un siège pliant pour la plage avec un parasol intégré. Ça, on pourrait l'imaginer. Alors, il y a un petit problème. Si Jeff Bezos réussit à rendre les humains immortels, c'est qu'à un moment, il va y avoir trop d'humains. Il faudra qu'on arrête de se reproduire. Là, on est quasiment 8 milliards. Les ressources de la planète, c'est déjà à limite. On augmente quasiment de 1 milliard tous les 10 ans. Si en plus, certains deviennent immortels, on va se retrouver à 15 milliards. Ça va être l'enfer. Vous imaginez le temps d'attente des livraisons Deliveroo, Uber Eats à 15 milliards. Une calzone, une margarita, cool, 35 minutes. 4 jours et 35 minutes. Putain, c'est rapide aujourd'hui. Hein, c'est... Mais heureusement, Jeff Bezos, il a la solution contre la surpopulation. Les employés de ses entrepôts à Amazon aux États-Unis meurent plus que dans les autres entrepôts. Ils sont forts, ces milliardaires, quand même. On a beau dire, la mort, c'est chiant, mais c'est vrai que sans cette petite flip de la mort, est-ce que l'homme aurait créé autant de... Sans cet ultimatum, est-ce que Bastien Vivès aurait autant dessiné? Même nous, les humoristes, on n'aurait plus aucune urgence à créer. C'est quoi? Des blagues d'immortels? Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez 350 ans, bah vous aimez moins le foot, non? C'est bien beau de se rajeunir les cellules, mais l'état d'esprit de la personne, est-ce que lui, il évolue? Ça va faire bizarre en 2100 de voir des jeunes de 20 ans, un plaid sur les genoux, en train de regarder des chiffres et des lettres. Ah bah oui, des chiffres et des lettres, ça sera encore là dans 80 piges. Hein. D'ailleurs, à mon avis, France 3 investit dans le rajeunissement des cellules. Laurent Romeschko, ça fait 20 ans qu'il a 37 ans. Cyril Ferraud, ça fait 20 ans qu'il a 17 ans. Mais qui veut voir dans 100 ans la terre remplie de jeunes de 20 ans en train de promener des caniches ou de regarder des travaux dans la rue, les mains dans l'eau? Je sais pas. Alors après, Jeff Bezos, il aime bien les effets d'annonce. D'un coup, on va vivre sur Mars. L'autre, on va rendre les humains immortels. Mais c'est que des choses où nous, contemporains, on les verra pas, quoi. Pourtant, le seul truc qu'on voit, c'est qu'ils maîtrisent vraiment bien l'exil fiscal. Et ça, bah, nous, on sait pas faire.
Merci, Tom Villa.
Et Tom, ce soir, tu es sur scène à Annecy à 20h30 et de retour à Paris à la Nouvelle Ève dès le 11 octobre.
Tanguy, pas sûr de quoi parles-tu aujourd'hui et dont parlera Tom dans 3 semaines.
Pas sûr parce que ça n'existera plus. Ah. Je vais vous parler d'Influence, une série énergie douce qui est super mais personne ne s'en rend compte parce qu'elle fait 0% d'audience. Alors moi j'ai envie d'aider.
Moi je me moque pas.
De 0%. Vous êtes loin de faire 0%. Hein. Ah, arrêtez un moment. 0%.
original avec Leïla Kadamoudali, Morgane Kadamoudali et Antoine Villa.
Bonjour.
Allez, Chilo Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Bastien Vivès.
Bastien Vivès.
Océan Noir, c'est publié chez Casterman. On se rend pas compte du temps qu'il faut pour créer, dessiner une bande dessinée, écrire le scénario, évidemment, au-delà de la promotion que vous faites aujourd'hui. Ça représente combien de temps de travail pour vous?
Ah, c'est une bonne année, hein, je pense. Hein. Ouais. Enfin, pour vraiment le dessiner, c'est 6 mois et après c'est 3 mois de modification.
Qu'est-ce qu'on corrige dans ces cas-là?
Tout, c'est le rythme de lecture. C'est vraiment ça. Quand on le lit, on le fait relire, on le fait relire et savoir ce que les gens ont compris, pas compris, machin. Ça m'est arrivé sur une BD où j'ai dit. Il me dit, ah, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout adoré. Je dis, alors le passage où il pose la bombe, il fait, quelle bombe? Et là, tu fais, ok, bon, alors il faut que.
Mais
je
non!
Tout. Ouais, ça arrive parfois. Donc, en fait, c'est pour ça que tu laisses quand même pas mal de temps pour reprendre.
Alors, ce sont pas des correcteurs au sens faute d'orthographe, c'est plutôt des correcteurs au sens de l'idée de la compréhension.
Ben, mes lecteurs, c'est ma femme, c'est mon père, ma mère, c'est mes amis, et je les fais lire. Et surtout, je dois les faire lire, mais pas tous en même temps, au fur et à mesure, quoi. À chaque fois, j'avance.
Vous faites des planches, alors
fois que j'ai comme des tableaux. toute ma BD, ils lisent tout.
Mais
voilà.
De quelle taille?
Non, mais d'un sur un mètre, c'est quoi? Ouais, moi je leur fais. Non, moi je fais hein. Tout sur. Ouais, c'est ça, j'ai une épreuve et tout, puis ils lisent ça tranquillement.
Et vous dessinez numériquement ou
ouais,
au petit crayon?
Sur numérique. Parce d'accord. que j'ai besoin de revenir, je sais pas, sur chaque planche, je suis revenu au moins 2 ou 3 fois. Ce qui fait que papier-crayon, je pourrais. Enfin, je sais pas si je pourrais vraiment le faire, mais ça serait un enfer de rustine et de blanco et de trucs comme ça. Donc,
Mais le contact du crayon et du papier ne vous manque pas parce que c'est comme ça que tout est né.
Non, je préfère les gros seins.
Non. Okay.
En termes de contact.
Eh ben voilà. Alors, contact. Écoutez la première partie, sinon vous allez
rien faire pour.
Oui, c'est ça. Le mec qui prend l'émission en cours de route, il est très gêné là.
Non, mais Corto Maltès.
Non, mais il a l'émission qu'il a.
Blague à part. Le crayon, la gomme, le fusain.
Non, mais depuis le confinement et tout ça, vraiment, je suis revenu quand même beaucoup au dessin papier et puis retrouver un peu ce que j'aimais. Donc ouais, vraiment. Mais je j'ai pas forcément un côté très fétiche, mais j'adore le fait d'avoir des accidents. Des accidents de dessin de par rapport au trait, parce que vu que c'est
non mais d'accord mais c'est quoi un accident de dessin
c'est ce trait qu'on a placé, c'est la tâche qui réagit différemment, tout ce genre d'accident qui fait que la position, il y a plus de spontanéité, alors que dans le numérique, à côté, de toute façon, il y a un côté très froid dans le numérique qui, au bout d'un moment, moi, au bout d'une vingtaine d'années, ça commence à me peser. Et puis surtout, c'est l'imagerie numérique, on en a tellement bouffé.
Mais comment jouer sur toutes ces nuances en blanc et noir en numérique?
Alors c'est pour ça que pour le quand je fais une BD vraiment beaucoup plus importante, solide et tout ça, j'ai vraiment besoin de privilégier la mise en scène plus que le dessin, et donc pour ça j'ai choisi le numérique. Mais si ça tenait qu'à moi, et là petit à petit je vais essayer quand même de faire de la bande dessinée vraiment de manière plus traditionnelle.
Chez Casterman, ça s'appelle Océan Noir, le nouveau Corto Maltese. Bastien Vivès est notre invité. Il co-signe avec Martin Kenéen et Hugo Pratt. C'est comme ça qu'il faut dire finalement. Non, mais l'esprit est toujours
là. J'espère qu'il se retournera pas dans sa tombe.
Et avec ce nouveau roman de bande dessinée, Océan Noir chez Casterman. Voici Monsieur Temps qui passe sûrement.
Hier, je surfais sur des sites médias afin de voir les photos du jubilé de Daniel Morin, 10 000e chronique, hein, fêté lundi, respect bro. Alors d'abord, j'ai visité le site de Morandini, quand on s'y connecte, qui écrit « Bienvenue sur Jean-Marc Morandini », ce qui confère une intimité immédiate au moment. J'ai eu l'impression que c'était un rendez-vous, j'ai refermé mon ordi, je suis allé mettre une veste, du parfum, et ensuite seulement, j'ai rallumé l'ordi. Puis je me suis rendu sur Pure Média, un site média, ils font aussi Pure People sur les stars, Pure Charts sur la musique, et Pure Ulan sur les ados apographes.
Oh,
et là, je suis tombé sur un article intitulé « Influence, la nouvelle série d'Énergie 12 regardée par 0% du public ». Et je me suis dit, 0% c'est peu, hein. Par exemple, il y a 0% de chance qu'Alain Duhamel saute à l'élastique, ou alors c'est que la porte de l'avion qui l'emmène à Ibiza sera ouverte en plein vol, et qu'au moment de sa chute, il aura été retenu par son slip qui sera pris dans la poignée de la porte. Vous voyez, c'est peu probable. Ouais. C'est ça, 0%. Alors d'abord, la série Influence, je vous la résume. Alex, jeune femme de 24 ans, suit des études de droit. La nuit, elle rêve qu'Éric Dupond-Moretti l'embrasse la laine chargée de tabac froid avant de la laisser pour morte devant le tribunal administratif de Saint-Étienne. La sœur d'Alex, Ilona, lui fait découvrir des influenceurs qu'elle suit depuis plusieurs années. Elle en est devenue totalement conne. Hein, la petite déambule la bouche ouverte en bavant. Pour la retrouver, ça fait comme pour les limaces ou les culs de jatte un peu chauds. Il faut suivre sa trace. Alex s'enthousiasme pour cet univers. Ah, ses abdos, oh, ses culs, oh, Dubaï, là-bas au fond, derrière les seins de la dame. Et elle décide de monter une agence d'influenceurs. Donc tout va bien, elle fait beaucoup d'argent, mais un jour, elle a un accident de voiture et tombe dans le coma. Alors, dans une série Énergie 12, c'est dur de distinguer qui est dans le coma de qui n'est pas dans le coma, parce qu'ils ont la même expressivité dans le regard. Donc, je pense qu'on a fait une pancarte dans le coma, qu'on lui a mise autour du cou, hein, pour la distinguer des autres, qui, eux, bougent, hein, ils se déplacent en twerkant et en hurlant, je vous ai fait une story, les amours. Voilà, donc, sur le papier, ça fait envie, hein, c'est autre chose que The Crown avec des plans de 4 minutes sur le prince Charles en train de rêver qui joue à Pouet-Pouet Camion avec Camilla.
Mais c'est une série.
C'est une série.
C'est pas une émission de télé-réalité.
Non,
c'est
pas
série.
Du tout. C'est une série. Alors, jouer à Pouet-Pouet Camion en Angleterre, c'est comme jouer à Pouet-Pouet Camion chez nous, sauf que ça se fait par la gauche. Hein. Donc, je ne comprends pas cet échec. Mardi, par exemple, Influence a réuni seulement 3000 personnes. C'est-à-dire qu'on est sur la marge d'erreur de Médiamétrie. Même si vous programmez un duel Michel Barnier, François Bayrou sous un Emmy, ça fera plus. Chaque diffusion de la Boom sur TFX, ça fait 1000 fois plus d'audience. Pourtant, on l'a vu 200 fois. Enfin, moi, quand je la regarde, je crie devant ma télé. Oh, ça va, Vic. 40 ans que tu danses dans le salon de ta mère. Grandit un peu. Enfin, on n'en peut plus de voir Sophie Marceau à 14 ans et de réaliser qu'elle fait plus jeune maintenant. Enfin, c'est une insulte aux lois de la nature. Influence avait tout pourtant. Moi, j'ai trouvé un petit film de présentation où on demande à l'actrice principale de définir la série en quelques mots. Elle dit influence, influenceur, agence, ambition et girl power. Enfin, je trouve que c'est un bon résumé de l'époque. 2021, personne ne va dire débat de fond, idée innovante, respect de l'autre et gilet en laine. Hein. Et vous savez, au fond, je suis quelqu'un de bon. Tout au fond, en bas à droite, puis deuxième à gauche. Et j'arrive pas à me réjouir d'un échec. L'autre jour, Ségolène Royal a fait 2% aux élections sénatoriales. Bon, ok, elle était un peu jeune pour le Sénat, elle n'a que 68 ans, il faut qu'elle mûrisse. Mais ça m'a pas fait rire. Ce qui m'a fait rire, c'est que dans la foulée, elle a annoncé qu'elle se présenterait peut-être à la présidentielle. C'est l'ascenseur social inversé. Si elle terminait 136e à la natation au JO, elle dirait à Florent Manoudou, dégage blaireau, place aux femmes, elle prendrait sa place en haut du podium. Non, qu'influence ne marche pas, c'est triste. Déjà pour les acteurs. Mégane Lemiel, qui joue Alex. Léa Stachurski, 9e au concours Miss France 2016. Arrière, deuxième dauphine. Hein, dans le monde des dauphins et des dauphines, ça équivaut à s'être fait harponner à la sortie de l'aquarium de Brest. Léna joue le rôle de Rosie. Je pense à Yannick Motley, qui joue Cyril, un footballeur de haut niveau. Alors, c'est le personnage le plus construit intellectuellement de la série. Alors, dans une série d'Arte, il jouerait un semi-débile. Hein. Cet acteur est un ancien de Marié au premier regard. Figurez-vous, il avait épousé Mélina, puis avait divorcé au second regard. Hein, il y a aussi une ancienne de Secret Story, un ex de la Star Academy, et également au casting, la chanteuse Indra, hein, une Suédoise qui a eu un tube 3/4 en 92 et qui en 94 sortait déjà un best-of réalisant qu'elle avait tout donné. Bref, un casting à pas cher, hein, il manque juste Tui-Tui, la mascotte de Direct 8 en 2007, et on est quasiment à Hollywood. Donc Pure Media a appelé Énergie 12 pour leur demander s'ils comptaient déprogrammer la série, parce qu'une audience à 0%, ça fait baisser le prix de la pub. Hein, là, un spot William Serin est facturé 1,90€, hein, les 16 minutes. On voit en temps réel une famille déguster une boîte de cassoulet entière. Hein, le papa a même le temps de saucer. Donc Énergie 12 a répondu, on sait pas trop, hein, parce que personne en télé n'envisage un audimat à 0%. 0%, c'est ce que ferait CNews s'il filait une émission intitulée « Lève-toi, peuple de gauche » à Laurent Geoffrin. Or, moi, je déteste que les gens se plantent. Je demande donc à tout le monde de regarder Influence à 18h sur Énergie 12. Auditeur de France Inter, je vais t'aider. C'est la chaîne numéro 12. Un repère, tu vois Culture Box, la 14, avec les Ilak Adour Boudadi à 20h qui prend les conseils de tous les pros de la musique en France. Merci, dans 16 jours, elle sort son disque, hein, elle en vend 200 000. C'est deux chaînes en dessous, deux heures plus tôt, Influence, c'est plein de petits jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce. Alors si vous donnez pas à l'UNICEF, au moins, regardez Influence.
Merci.
Et Tanguy Pastureau, on se retrouve demain en spectacle à Hier dans le Var.
La culture avec justement Leïla Kadour Boudadi. Quoi de neuf ?
Netflix vient de réaliser sa plus grosse acquisition, le catalogue des œuvres de qui ?
James Bond.
Non, c'est un auteur qui n'est plus là, oui, un auteur pour la jeunesse. Et un autre indice, si je vous dis.
Anderson ?
Johnny Depp ou Pénélope Bagieu. Vous pensez à.
Alors ça.
Johnny Depp, Pénélope
oui,
Bagieu.
Je sais.
Vous devriez le savoir.
On est dans la bande dessinée.
Non, pas forcément. Le point commun entre Johnny Depp et Pénélope Bagieu, c'est pas la BD.
Quoi faire ?
C'est un auteur.
Une certaine féminité.
Non, c'est un auteur.
Ah, les initiales. Ils n'ont pas les mêmes initiales.
Netflix vient d'acheter le catalogue des œuvres de quelqu'un. Et le point commun, ce quelqu'un pour le trouver, c'est Johnny Depp.
Mais c'est pas Tim Burton, parce que ça n'a rien à voir.
Non, mais elle a fait quoi récemment, Pénélope Bagieu ? On l'a reçu pour ça.
Ah, Roald Dahl.
Merci, Roald Dahl, absolument. Elle a fait Sacrée Sorcière. Et Johnny Depp a fait Charlie et la chocolaterie. Voilà.
C'était pointu.
Ça va.
on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé.
Ouais, vous êtes pas bon ce patin, qu'est-ce qui se passe?
Non, si,
pas
Tanguy a trouvé.
C'est octobre. Hein.
Tanguy. Ah ouais,
bah, je me souvenais des sorcières. Ouais.
En fait, Netflix a décidé d'acheter les œuvres en fait de Roald Dahl. Pour l'idée, c'est de produire à terme des longs métrages, de l'animation, des produits dérivés, tout ce que Netflix va pouvoir exploiter, des expériences immersives, par exemple, des petites séries, tout ça. À développer
donc
à partir
à
de
la
ce
source,
catalogue.
À la source absolument. De la création.
Ils font l'acquisition de ces droits-là et comme ça ensuite ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Quand Pénélope Bajut est venue dans cette émission nous parler de Sacrée Sorcière, elle nous a raconté à quel point c'était un rêve pour elle de s'emparer de Roald Dahl. Est-ce qu'il y a un auteur jeunesse qui pourrait comme ça vous intéresser?
Non, pas trop dans la littérature jeunesse et tout ça. J'ai pas forcément. Ouais. Moi, je suis tout de suite allé dès que j'étais petit. J'allais taper chez les adultes.
Chez les
quoi.
Grands,
c'est
ouais.
là où c'était le plus. C'est là où ça.
Le plus intéressant
le plus
pour
intéressant,
ses passions
ouais.
personnelles. Oui, ouais, j'ai
non, comprendre. Mais pas forcément que pour ça. Mais même, je trouve que c'est intéressant d'aller voir des choses. Bah quand on est petit, d'aller voir des choses qui vous suscite un peu de curiosité.
Ouais. Oui, mais à l'inverse, quand on mûrit...
Quand on est grand, et bah après,
est-ce qu'on a des madeleines? Est-ce qu'on revient vers des...
Bah non, parce que je les avais pas forcément avant. Enfin, c'est ça le truc, c'est que je vais pas me remettre à lire de la littérature. Bah maintenant que j'ai un fils, et je lui lis des,
vous voulez pas dessiner
des histoires. Non, bah, j'aimerais bien qu'il dessine...
Non mais d'accord, mais faire des bandes dessinées pour enfants.
Ouais, vaudrait mieux pas. J'ai essayé un peu. J'ai sorti un livre jeunesse, mais qui s'est pas vendu du tout, parce que moi je voulais vraiment faire peur. Et en fait, j'ai compris que non, mais et ça s'appelait Attention chien méchant, et c'était tout un truc vraiment où on allait aller dans la peur et dans l'angoisse. Mmh. Et en fait, j'ai compris que bah non, en fait, les parents ils ont pas envie que leur enfant ils aient peur et ils soient angoissés. Mmh. Et je trouve ça dommage parce que la peur c'est un sentiment génial à explorer quand on est gamin.
Avant de se coucher.
Le petit chaperon. Ouais. Non mais petit chaperon.
Non mais les
rouge,
contes, oui, ça fait sur peur. La peur.
Ouais,
ça.
Contes de Grimm.
Bien sûr. Et on l'a. Mais vous avez vu quand même que depuis il y a une espèce de tendance qui fait que on va pas vraiment raconter la vraie histoire des trois petits cochons ou la vraie histoire de chaperon rouge, mais je pense que c'est toujours intéressant parce que ce qui est génial avec un gamin, c'est que la peur, elle va se fixer sur n'importe quoi, un escalier, ça peut faire peur et tout. Et en fait, ils ont quelque chose d'assez flou là-dedans. Et je trouve ça super de parce que c'est ce qui régit leur quotidien. Ils ont toujours peur de tout, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'un dessin, votre dessin, est adaptable à tous les publics?
Ça dépend. Je pense que quand même un gamin va au bout d'un moment il va pas comprendre, ça va lui passer au-dessus de la tête. Par contre, je pense que oui, ça a été par exemple quand on a fait Last Man ou des choses comme ça, je pense que c'est vraiment il y avait des choses régressives pour les adultes, il y avait des choses un petit peu
il y a plusieurs niveaux de lecture comme dans les
exactement,
Pixar quoi.
Exactement.
Ou dans les...
Ouais, sauf que j'essaye à chaque fois de pas tomber dans une espèce de morale ou quelque chose comme ça ou d'un message qui peut être un peu lourdingue quoi.
Ce soir 22h45 sur France 2. The Artist, les auteurs, compositeurs, interprètes, et il y aura eu avant sur Culture Box, le canal 14, la masterclass de Leïla Kadour-Boudadi.
Oui, et on va revenir surtout sur la masterclass d'hier. On était avec le grand Jean-Louis Aubert.
Incroyable.
Merci beaucoup Tanguy d'avoir parlé de ce rendez-vous. Ouais. Jean-Louis Aubert qui est venu livrer aux artistes présents un peu son expérience avec toujours cette tendresse et cette modestie qu'il caractérise.
J'aimerais bien faire comme Gabin, commencer par dire que je ne sais rien. Mais ça, je le sais. Ça, c'est d'expérience. J'ai le choix entre me taire dès maintenant ou vous parler pendant des années.
Et il est revenu, Jean-Louis Aubert, sur une partie de sa carrière, notamment sur ses textes. Alors, on connaît tous La Bombe Humaine. Eh bien, étonnez-vous, parce que son père, quand il a lu le texte pour la première fois, parce qu'il voulait voir les textes de Jean-Louis au début, parce qu'il s'inquiétait un peu de savoir ce qu'il allait devenir, ben, il a rien compris.
Et La Bombe Humaine, il m'avait dit... c'est bien, mais c'est surréaliste hein, comme chanson. Mmh. Et personne va rien comprendre, hein, parce que tu passes d'un truc à l'autre. Et je lui disais, oui, mais papa, et ça c'est un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que la structure musicale permet des fois de passer d'un sujet à un autre. Et franchement, j'avais des doutes du coup. Je me disais, oui, mais c'est vrai que c'est compliqué en fait. Elle a peut-être pas de sens cette chanson. Et puis on fait notre première télé à Deauville et il y a une dame qui m'arrête dans la rue et qui dit « Oh, regardez mon fils de 8 ans !» Et le baume, il s'arrête et il me chante la bombe humaine en entier, quoi. Et j'étais fou de joie, quoi, en fait.
Et il est parti. Il a
voir son père.
Couru trouver une cabine téléphonique, parce qu'à l'appel, à l'époque, il fallait quand même se débrouiller comme ça. Et en fait, il nous a...
Pour appeler son père en lui disant « J'ai un môme de 8 ans qui a
compris, voilà, qui a compris de quoi il s'agissait. Et puis, il a aussi un rapport au texte. Il a déculpabilisé un peu tout le monde sur le texte.
Une fois, je regardais Bono de U2 et on lui demandait « Qu'est-ce que tu fais ?» Il disait « J'essaye de comprendre ce que je veux dire. » Et souvent, dans une chanson, alors que ça vous paraît être n'importe quoi, il y a quelque chose dans la manière de chanter ces phrases qui n'ont aucun sens, et aussi dans la mélodie, parce que la colère a une mélodie, la tristesse, la colère, et toutes les phrases dans la vie ont une mélodie.
Et Jean-Louis Aubert, l'écouter, c'est aussi avoir affaire à un poète.
L'air du temps, c'est une très jolie phrase, parce que la mélodie d'une chanson, c'est un air. Et un air, c'est quelque chose qu'on respire. La guitare, c'est la compagne des solitudes, c'est la compagne des joies, c'est la compagne des fêtes entre amis. Je trouve ça fantastique. Et donc, le fait que ça passe par l'air est absolument magique. Donc, on est des sculpteurs de vent. Et c'est vrai qu'on vend du vent.
Et c'est vrai que Jean-Louis Aubert, il vend du vent, mais il le vend bien. Et puis, il n'est pas parti indemne, lui, non plus, de cette masterclass, parce que ça a duré. Ça a traîné. Ça a jamé. Ouais. Il y avait un piano. Bastien, vous jouez un instrument, d'ailleurs?
Non, du tout, mais je suis vraiment admiratif de la musique et j'aurais aimé écrire ou chanter.
C'est le même processus de création?
Ouais, puis moi, je trouve que c'est vraiment la Rolls-Royce de l'émotion en termes d'art narratif, quoi. C'est pendant 2 minutes 30, on peut prendre une émotion et qui peut partir à la première seconde. Et après, tu la tiens pendant 2 minutes, 3 minutes. C'est incroyable, c'est un vrai privilège, quoi.
Jean-Louis Aubert sera d'ailleurs dans le jury ce soir de The Artist, 22h45 sur France 2 et avant sur le canal 14 Culture Box avec Leïla Kadour-Boudadi.
Et on fait un retour toute la semaine.
Et aussi le travail de création de ces auteurs, compositeurs, interprètes qui vont proposer ce soir de nouvelles chansons.
Et lundi, on sera avec MC Solar.
Oh, la classe.
Ouais, pour la masterclass,
MC
j'avoue.
MC Solar.
Ouais.
Vous avez des idoles encore aujourd'hui, ou c'était quand on était gamin et c'est plus le cas maintenant qu'on est grand?
J'ai essayé quand même de pas tomber quand même sur le côté fan. Il y a certaines personnes dont j'étais fan, de dessinateurs, dessinatrices, et en fait quand j'ai pu les rencontrer,
vous étiez déçu?
Et non, c'est pas déçu, mais mon comportement m'énervait. Je j'aime pas du tout être dans un comportement de fan, mais en fait on est là et on a l'impression que tout ce qu'on dit c'est débile, et lui et la personne en face est gênée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye
dire à quelqu'un je vous aime, je vous admire.
C'est pas évident, et c'est toujours une position qui est pas très la position de fan est pas vraiment.
Et le recevoir, et que quelqu'un vienne vous voir en disant je vous adore,
ça fait plaisir, mais on est un peu gêné, quoi, parce que c'est comme on est en train de travailler puis tout d'un coup quelqu'un dit je t'aime, tu fais ouah, attends, je sais pas comment gérer ça, enfin tu vois, c'est énorme. Non, mais c'est
ça nous arrive jamais, nous, quand
non.
on travaille
non, non, non. au bureau non.
Non, personne.
Non, et ça c'est pas évident, mais par contre c'est vrai que
Morgane, je t'aime,
voilà. Ben, c'est bien, il faut il faut se le dire, parce que ça permet de garder une bonne ambiance décontractée. Et par contre, non, c'est peut-être dans le cinéma, des gens comme Verhoeven, Feu Claude Sauté, ou des gens comme ça, voilà, je garde quand même.
Parce que vous dessinez en regardant
je regarde aussi beaucoup de films, c'est là où je vais aussi chercher aussi beaucoup dans le cinéma.
Océan Noir, c'est chez Casterman Corto Maltese. Je sais pas si c'est une blague ou pas, on m'a dit qu'après Océan Noir, vous prépariez Carré Blanc.
Ouais, complètement. Non, c'est ma collection de BD érotiques. Je vais faire ça de reprendre là où la bande dessinée érotique s'est arrêtée, à peu près Manara, quoi. Enfin, voilà, dans les années 80. Et de se poser la question, qu'est-ce que l'érotisme aujourd'hui? Et de se refamiliariser avec ce genre qui était incroyable en bande dessinée.
Parce que l'érotisme est tué par les réseaux sociaux et tué par
C'était
entre guillemets tué par le côté un peu par le porno qui a vraiment qui s'est accaparé toute la représentation et toute l'imagerie
Il y a du manga érotique quand même, du manga érotique beaucoup quand même.
Il y a beaucoup de mangas porno, ouais. Mais vraiment il vraiment faire la différence entre le porno et l'érotique. L'érotique, ouais, c'est vraiment c'est l'acte sexuel ou la sexualité, c'est une question de vie ou de mort, quoi. C'est vraiment un moment,
c'est votre définition de l'érotisme.
Pour moi, l'érotisme, c'est que c'est toujours en rapport avec la mort, et c'est surtout, c'est une histoire de, si on enlève l'acte érotique dans une histoire érotique, l'histoire ne marche plus du tout, alors que dans un porno, c'est très potache.
Si vous enlevez l'acte, il reste le générique.
Il reste pas grand chose, mais ouais, l'histoire se tient. Je viens pour réparer la machine à laver, il répare la machine à laver et tout se passe bien, et voilà.
J'adore cette histoire.
Bonjour,
mais...
c'est le plombier.
Indémodable.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, déjà, désolé pour les hommes qui ont deux yeux et qui voient en couleur. Vous n'intéressez pas Bastien Vivès du tout. Lui, son truc, c'est les femmes borgnes en noir et blanc et à forte poitrine. Désolé pour notre invité Bastien Vivès qui, venu parler de Corto Maltese, s'attendait sûrement à être reçu par une bande de chroniqueurs bien gaulés et ténébreux et qui est tombé sur nous. Désolé pour Bastien Vivès, encore une fois, qui croyait aller mieux, s'en être sorti, être délivré de ce qu'on pourrait appeler la vergogna italiana, et qui là va s'effondrer, se rouler en boule, chialer des larmes de Chianti. Ça fait mal, mais c'est bon, comme souvent.
Merci beaucoup, Bastien Vivès.
Merci à vous.
C'est Corto Maltese, c'est en noir, chez Casterman, absolument. Bravo. On se retrouve lundi pour la bande originale avec Evelyn Bouygues et Pierre Arditi. Et dès ce soir, France Inter et France 2, partenaires de The Artist, 22h45 sur France 2.
Bon week-end. Ouais.